France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La présence des Noirs dans la culture fait-elle ou non aujourd'hui encore problème ? Certes, le politiquement correct a fait son travail et marquer ou remarquer une particularité physique entraîne assez vite quelques soupçons. Mais peut-on ignorer le poids des préjugés ? Verrait-on du racisme partout, même là où il n'y en a plus ? Une géante peut-elle jouer au cinéma le rôle d'une naine ? Et peut-on parler de discrimination si on le lui refuse ? Une noire peut-elle jouer une des trois sœurs de Tchekhov ? Comment doser sans être extrémiste ? Posons la question autrement. Comment apporter avec la plus grande justesse de la nuance, des corps, des voix et des couleurs au cinéma ou au théâtre, sans réduire la grande et belle palette de la diversité humaine ? Toutes ces questions, Antoine Spire les pose dans cette passionnante émission datant de 1988 et qui s'intéresse au noir dans le cinéma occidental.
Voix du silence, une émission d'Antoine Spire.
Avec la collaboration de Jeannette Paterkowski, réalisation Anne Kobilac. Aujourd'hui, le noir dans le cinéma occidental. Avec Raphaël Bassan, journaliste à la revue Cinéma Action, auteur d'un dossier Le noir dans le cinéma américain, édition du CERF. Jean-Michel Martial, responsable de l'association de défense de l'acteur noir dans le cinéma français. Christine Sirten, une actrice zaïroise. Véronique Mucret, réalisatrice. Et Blaise Joya, auteur du Nègre Potemkin aux éditions Lieux Communs.
Je suis un nègre, noir comme la nuit est noire, noir comme les profondeurs de mon Afrique. Je fus esclave. César m'a dit de tenir ses escaliers propres. J'ai ciré les bottes de Washington. Je fus ouvrier. Les pyramides se sont dressées sous mes mains. J'ai fait le mortier du Woolworth Building. Je fus chanteur. Tout le long du chemin, depuis l'Afrique jusqu'en Géorgie, j'ai porté mes chants mélancoliques. J'ai inventé le ragtime. Je fus victime. Au Congo, les Belges m'ont coupé les mains. Maintenant, au Texas, on me lynche. Je suis un nègre. Noir, comme la nuit est noire. Noir comme les profondeurs de mon Afrique.
Raphaël Bassan, ce poème de Laxton Hooks nous servira peut-être pour parler de l'histoire du noir dans le cinéma américain. Vous avez dirigé pour Cinémaction un numéro spécial sur le cinéma noir américain. Est-ce qu'on peut dire que l'image du noir qui sort du cinéma américain en général, elle est donnée par ce poème de Langston Hughes ?
Oui, en grande partie, et surtout jusqu'aux années 60, c'était à peu près ça. Il faut dire qu'au début, c'est-à-dire vers 1900, quand on a commencé à tourner aux États-Unis des films, le rôle des Noirs était interprété par des acteurs blancs, les minstrels, qui étaient grimés. Cela venait de toute une tradition théâtrale du Sud, qui avait parcouru tout le 19e siècle. Et il faut attendre, disons, 1912, 1913, pour voir des acteurs de théâtre, interpréter des petits films, des petites scénettes, mis en scène par leurs collègues, qui étaient également des acteurs. Autrement, Hollywood n'a utilisé des Noirs, à ma connaissance, que vers la fin des années 20.
Le film de Griffiths, qui est sorti en 1915 et qui s'appelle Naissance d'une nation, film clé de l'histoire du cinéma,
finalement a mis en image tous les stéréotypes qui existaient aux États-Unis par rapport aux Noirs.
Bon, ce film a eu une importance capitale. Bon, il a conforté, disons, certaines thèses racistes qui étaient encore très puissantes à l'époque et qui l'ont été tout au long des années 30, quand on voit les films de Walsh et d'autres. Il magnifie le Sud, par exemple, Autant en emporte le vent et un des archétypes. Donc, Naissance d'une nation, donc, d'une part, a conforté les Blancs et d'autre part, a provoqué au sein de la communauté noire une puissante forme de résistance qui a été soutenue par le NAACP, qui est l'Association nationale pour l'émancipation de gens de couleur, qui avait été fondée en 1909 et qui était une organisation biraciale, donc qui aura une grande importance par la suite, notamment dans les années 40, quand ils vont intervenir auprès d'Hollywood afin que Lena Horne puisse avoir des rôles décents. Donc cette organisation préconise des boycotts un peu partout dans les États-Unis. Et ça a eu un mouvement de boomerang. Parce que jusqu'alors, il y avait quelques petits films faits par des courts-métrages, donc faits par des Noirs. Et à partir de là, de véritables maisons de production vont se créer, dont la Lincoln sera une des plus puissantes. Et il y aura même une tentative de faire une réponse à ce film, qui sera Birth of a Race. Sauf que bon, à l'époque, les Noirs ne pouvaient pas faire de films avec leur simple budget. Ils ont dû faire appel à des Blancs, qui en 2-3 ans ont un peu dénaturé le film, et le film qui est sorti en 1919 donc à Chicago était un film libéral, donc qui parlait de la naissance du monde jusqu'à nos jours, sur des thèmes d'émancipation aussi bien des Juifs, des Noirs que de toutes sortes d'ethnies, mais le message avait été un peu édulcoré.
Alors, il y a eu l'expérience de Lorenzo Tucker, à qui on donnait on a surnommé le Valentino Noir dans les années 30. Alors, il va nous permettre d'évoquer peut-être la sexualité des Noirs et la manière dont on a représenté pendant très longtemps dans le cinéma hollywoodien la sexualité des Noirs.
Oui, on voit une très bonne représentation déjà dans Naissance d'une nation où, bon, le Noir, qui était un acteur blanc grimé, bien sûr, effarouche et viole une jeune fille. Bon, le Noir, et ça ne change pas beaucoup maintenant, sauf que maintenant les femmes blanches le désirent. Le Noir était une forme de terreur, de supersexualité que les Noirs eux-mêmes, en fait, ont intériorisé dans les films de la Blaxploitation des années 70. Ils ont utilisé cette espèce de pouvoir qu'on leur avait donné d'une manière assez fantasmatique. Quant à Lorenzo Tucker, il a surtout tourné donc dans les films d'Oscar Michaud, qui était le principal cinéaste indépendant noir, qui a commencé à tourner en 1919 et jusqu'en 1948. Et il avait formé, à l'image d'Hollywood, toute une cour. Il y avait aussi une actrice qu'on appelait la Mary Pickford, Sépien, etc. Toute une petite cour donc d'acteurs qui étaient destinés à la communauté noire. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait à peu près 700 salles de ghetto dans les États-Unis.
Alors donc il y avait un cinéma alternatif noir qui s'opposait au cinéma d'Hollywood déjà.
On peut pas dire qu'il s'opposait, c'est-à-dire bon Michaud, bon il représentait une certaine image de la réussite et il voulait que les Noirs comme lui réussissent. Alors dans ses films qui sont assez ambigus, qui ont été critiqués à partir de la fin des années 30 quand la conscience noire a progressé, ces films montraient par exemple le bon Noir, celui qui voulait s'intégrer comme un personnage assez clair, presque blanc, et le mauvais Noir avait des traits négroïdes très très prononcés. Donc c'est... mais alors l'importance d'Oscar Michaud, comme un peu plus tard Spencer Williams, c'est d'avoir donné de vrais rôles, des rôles de premier plan aux Noirs qui n'en avaient pas alors.
Raphaël Bassan, alors il faut à peu près atteindre la fin des années 50 pour voir apparaître dans les séries de télévision des Noirs qui jouent enfin des rôles de médecins, d'infirmiers, d'avocats, de professeurs et même de cow-boys. Est-ce que c'est le résultat véritablement de manifestations conscientes ou bien c'est l'évolution des mœurs en rapport avec l'intégration croissante des Noirs à la société américaine?
On peut voir Paul Robeson, dès 1933, dans Emperor Jones de Dudley Murphy, interpréter un rôle de premier plan face à des comparses blancs. Donc bon, il n'y a jamais eu de rupture comme ça totale. Bon, à partir des années 40, il y a eu les fameux All Black Cast musicaux. Donc, et justement, là, on revient à Lena Horne, qui, pour la première fois, jouait une femme de spectacle, donc une femme libre qui n'était plus obligée d'être une boniche ou une servante pour passer au premier plan à l'écran. Il y a eu la guerre. Donc la guerre, il a fallu mobiliser tous les Américains. Alors donc, pour la première fois, dans un film Negro Soldiers commandé directement par le département de la guerre, un scénariste noir, Carlton Moss, peut faire un documentaire qui montre les grands hommes, écrivains, philosophes noirs qui ont été occultés depuis le début. Donc ça, c'était pour montrer que bon, les noirs aussi étaient des citoyens américains. Donc c'était à double tranchant. Alors après la guerre, on ne pouvait plus revenir là-dessus. Et des gens comme Elia Kazan, Mankiewicz, etc., se sont mis à faire des films réformateurs, donc qui prenaient la tolérance raciale. Et il faut attendre une troisième étape, c'est-à-dire les années 62-63 et les mouvements actifs pour les droits civils. Donc initié d'abord par Martin Luther King et un peu plus tard, donc plus violemment par Malcolm X, pour voir une autre génération, c'est-à-dire des cinéastes indépendants noirs, directement militants, qui eux, non seulement cassent l'image, mais la nient totalement et inventent une autre image du noir.
Alors restons à la deuxième période peut-être, et à la fin de la deuxième période, le mélange des races. Pour la première fois, il est abordé par One Potato, Two Potatoes de Larry Pierce. Le sujet avait été effleuré 3 ans avant dans Paris Blues avec Paul Newman et Sidney Poitier. Ça a été une date quand même, non, ce mélange des races?
Oui, ça a été une date. Alors, contrairement à ce qu'on prétend, ce sont les films réalisés par des Blancs donc qui ont abordé cette question. Et que quand les cinéastes noirs ont pris la caméra, ils se sont montrés très réticents sur le mélange des races. Par exemple, un cinéaste comme Cheryl Lane essaye depuis 10 ans de faire un film sur le mélange des races et il ne peut pas, les gens de sa communauté n'en veulent pas parce qu'ils disent que dans la réalité, de tels rapports sont fantomatiques et n'existent pas.
Alors, quand on parle de l'acteur noir et de l'image du noir dans le cinéma américain, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est Sidney Poitier, bien sûr, avec Devine qui vient dîner. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un exemple de réussite unique parmi les acteurs noirs d'une part, et que son image de héros noble dans des films peuplés de gens de race blanche est devenue un symbole pour certains noirs qui luttaient pour l'égalité à l'intérieur du cinéma et des représentations américaines?
Oui, c'est un exemple unique, bon, parce qu'il a été vraiment le premier à, disons, avoir une carrière de premier plan à l'intérieur du cinéma hollywoodien. Entre 50 et 65, donc la période où il a joué le plus, l'image des Noirs s'est indubitablement transformée et on ne peut plus revenir, bon, sauf peut-être dans des séries Z, au cliché du cireur de chaussures. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my brow.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'Hollywood, quand même, a toujours tendance à mettre en scène les acteurs noirs selon le regard et pour le regard des spectateurs blancs? Par exemple, si je prends dans Le Flic de Beverly Hills, Murphy est arraché à l'environnement noir, transplanté dans un monde blanc, mais le spectateur blanc donc peut bien se repérer dans ce monde. Dans 48 heures, le noir a pour vocation de troubler l'ordre, et finalement, c'est le blanc qui rétablit l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance qui continue à demeurer, quoi qu'il arrive quand même, à Hollywood?
Entre 69 et 74, il y a eu un mouvement qui s'appelait la Blaxploitation, qui avait été assez critiqué à l'époque, là aussi, mais les historiens noirs eux-mêmes reviennent aujourd'hui là-dessus, qui montrait justement des noirs, des policiers généralement, qui arrivaient à vaincre donc des gangsters blancs ou des sénateurs corrompus blancs. Alors, à partir de là, Hollywood récupère ceci et ça donne Le Flic de Beverly Hills où, bon, Murphy a beau avoir la peau noire, c'est quand même un flic blanc, il se bat pour les valeurs blanches.
Alors justement, ce film, est-ce que ce n'est pas finalement un très bon reflet de la situation du noir dans le cinéma occidental ?
Occidental, je ne sais pas, parce que bon, là aussi, on accuse les États-Unis d'être bon, particulièrement racistes. Quand on voit la situation en France, on peut dire que c'est pratiquement le désert. Bon, à part Blanc, là, qui va avoir un premier rôle dans Black Micmac numéro 2, pratiquement aucun acteur antillais, donc citoyen français, n'a de premier rôle dans la production française.
Véronique Mucret, vous avez été très longtemps comédienne. Mm-hmm. Vous avez des difficultés pour vos premiers films ?
La carrière au niveau du cinéma, c'est pas parce qu'on fait un film en tant que noir, après, qu'on peut avoir une carrière ici. On peut même faire un film où on peut être génial en tant que comédienne, mais on vous voit jamais comme une comédienne à part entière. On vous voit pas comme une femme qui a des problèmes ou qui a une vie sociale de tous les jours. On vous voit comme une caricature, comme quelque chose de très précis dans lequel on peut puiser des choses, mais qui sont uniquement métropolitaines, si je veux j'ose dire, de la vision de l'homme. Pour l'instant, je n'ai tourné qu'avec des hommes. J'aurais bien aimé tourner avec une femme pour voir quelle vision elle aurait pu avoir d'une femme noire, quoi. Les visions des hommes en général, des réalisateurs, c'est toujours très, très exotique. C'est la femme noire qui doit se déshabiller à certains moments, même si c'est un rôle de bonne, même si c'est un rôle d'infirmière, elle se déshabille comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il n'y a rien de plus pudique qu'une antillaise. Mais non, ils nous voient encore comme une vision un peu colonialiste, quoi.
Alors donc, cette vision colonialiste, elle se poursuit encore aujourd'hui et tous les films que vous avez faits, ça a été des films de ce genre ?
Ben en fait, ça n'a jamais été vraiment des propositions intéressantes. On vous propose jamais un film intéressant dans lequel on peut vraiment se mettre en tant que comédienne. Alors, je me suis dit, bon, j'ai fait beaucoup de choses en tant que chanteuse, en tant que danseuse. Et puis là, maintenant, je me lance vraiment dans le cinéma. Et puis, ça commence à bien prendre. Et maintenant, je veux écrire des rôles pour ma sœur, qui est une comédienne extraordinaire, qui s'appelle Mino. Et j'écris des choses pour elle. Et puis, surtout sur le métissage culturel.
À votre avis, pour qu'une comédienne soit respectée, prise en tant que telle par le cinéma français aujourd'hui, il faut absolument qu'elle passe par l'écriture elle-même de scénarios, sinon elle est la noire de service qu'on déshabille.
Ben, si on veut changer quelque chose comme les autres le font pas pour nous, eh ben on est obligé de passer par là. Il y a Eusanne Palsy qui a fait un très 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 beau film.
Ah, j'étais contente. Rue Cazenègre.
Oui, mais je suis contente parce qu'en même temps c'est une femme et c'est la première femme noire en fait qui a fait vraiment connaître le cinéma antillais. Ben, en même temps, c'est pas un réel cinéma uniquement antillais. C'est vraiment un cinéma universel parce qu'elle raconte une histoire de personne avant tout. Et elle l'a raconté avec l'amour qu'elle a de son pays et puis en même temps toute la culture qu'elle a pu avoir ici en France, quoi. Et maintenant, alors, moi, je pense qu'avant tout qu'elle a appris en tant que cinéaste.
Véronique Mucret, est-ce que vous ne risquez pas de participer à la vie d'un cinéma noir très intéressant, mais opposé au cinéma blanc français? Est-ce qu'il n'y a pas nos combats à mener à côté pour que les Noirs aient toute leur place dans le cinéma français blanc ?
Je crois qu'au contraire, si les autres cinéastes voient qu'il existe réellement des acteurs noirs, femmes et hommes qui sont extraordinaires, ils auront peut-être envie aussi d'écrire pour eux. Mais je n'ai pas du tout envie de me mettre dans un ghetto. J'ai vraiment envie de faire un cinéma avec des histoires que j'ai envie vraiment de raconter depuis toujours.
Ils me l'ont rendu la vie plus lourde, hélas. La liberté m'est une douleur affreuse. Mais aujourd'hui, en chacun sur mon jadis, de gros yeux qui roulent, de rancœur, de honte. Les jours inexorablement tristes, jamais n'ont cessé d'être à la mémoire de ce que fut ma vie tronquée. Va encore mon hébétude du temps jadis. De coups de corde noueux, de corps calcinés, de l'orteil au dos calciné, de chair morte, de tisons de fer rouge, de bras brisés sous le fouet qui se déchaîne, sous le fouet qui fait marcher la plantation, s'abreuver de sang, de mon sang, de sang, la sucrerie, et la bouffarde du commandeur crânée au ciel.
Christine Sirten, vous êtes comédienne, une comédienne zaïroise. Le texte que vous venez de lire de Léon Gontran Damas, c'est en fait ce texte d'un poète guyanais qui faisait partie de ce qu'on appelle les Trois Mousquetaires avec Saint-Gore et Césaire. Les Trois Mousquetaires parce que Léon Gontran Damas, comme les autres, a mis en valeur de façon remarquable, au fond, la spécificité de la négritude.
Oui.
Mais une négritude souffrante. Ça n'a pas changé, ça, aujourd'hui ?
Je crois que, bon, il y a toute une nouvelle génération qui est venue après ces Trois Mousquetaires et qui est issue des Trois Mousquetaires, mais veut se démarquer de ce qu'ils ont fait. Et je connais plusieurs jeunes écrivains qui contestent la négritude. Par exemple, je donnerais l'exemple de Wallis Soyinka qui a dit « Le tigre ne se répond pas de la tigritude, il est un tigre ». Mais je crois que c'était très important qu'on passe par la négritude pour s'en démarquer après et pour trouver une identité propre.
Alors vous êtes comédienne, quels sont les rôles qu'on vous a confiés jusqu'à maintenant ?
Par exemple, dans Marivaux, j'ai joué le rôle dans L'île des esclaves de Marivaux de Cléantis, qui est le rôle d'une esclave révoltée. La suivante d'Hermione dans Andromaque, toujours dans le répertoire classique. Et sinon, j'ai joué, par exemple, le rôle de Marquise du Parc dans une pièce sur Molière. Marquise du Parc était d'origine italienne, donc qui ne ressemblait physiquement sûrement pas à mon physique, mais qu'on m'a quand même confié ce rôle-là. J'ai joué dans une pièce qui... une rêverie sur l'univers de Shakespeare, où je jouais une folle shakespearienne. Et puis, j'ai joué dans plusieurs pièces africaines.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous confie les mêmes rôles que si vous étiez blanche, ou que, disons, le fait que vous soyez de couleur, oui, fait que, eh bien, il y a des rôles subalternes qu'on vous donne et des, oui, premiers rôles qu'on ne vous donne pas?
Oui, je trouve que c'est une situation qui est excessivement injuste et très difficile à vivre. Mais pour moi, c'est très subtil. Ma façon de le vivre est particulière parce que je sais que si je me présente à une audition où on cherche une des trois sœurs de Tchekhov, si je me présente au metteur en scène en disant simplement que je suis Christine Sirtaine, je peux jouer un des rôles, je vais passer l'audition, quand je monterai sur le plateau, il va dire « mais ce n'est pas possible, excusez-moi, mais vous comprenez, ce sont ces trois sœurs, je n'étais pas au courant que vous étiez métisse, ça n'entre pas dans ma conception de la mise en scène ». Il y a 90% de chances qu'ils me disent ça. Donc,
on vous le dit en face comme ça?
Plus ou moins. Peut-être qu'on s'arrangera pour me le dire d'une façon un peu plus... un peu plus délicate, mais on me le fait comprendre. Pour moi, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où je ne peux pas me présenter à n'importe quelle audition, à n'importe quel casting, au même titre qu'un autre comédien, à partir du moment où c'est un rôle qui me convient, que je peux interpréter, j'estime qu'il y a une discrimination. C'est très dur. Je voudrais qu'on considère d'abord l'acteur, la personnalité de l'acteur, et puis après qu'on considère son physique. Même pour les acteurs blancs, même au niveau des femmes, une femme blonde, une femme brune, c'est pas toujours évident qu'on leur confie certains rôles, parce que les gens ont des images très précises, au cinéma encore plus. Ce qui me paraît paradoxal, c'est que dans un art, quand même, où les réalisateurs, les metteurs en scène sont des gens qui, intellectuellement, sont à un certain niveau, et je trouve que c'est paradoxal que c'est un des arts qui reste les plus prisonniers de conventions. On a passé un cap en opéra, par exemple. On a passé un cap en danse qu'on n'a pas passé en théâtre.
Alors est-ce que paradoxalement, il ne reste pas seulement la solution de la négritude, c'est-à-dire de s'enfermer dans sa spécificité, de jouer dans le théâtre africain et d'être la métisse du théâtre africain?
Non, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est justement que tout est possible et qu'on peut interpréter des choses qu'on n'est pas, qui vous dépassent complètement. Mais c'est sûr que j'ai trouvé dans le théâtre africain des rôles qui était très beau, très important. Et c'est vrai que je préfère jouer un rôle qui me satisfasse complètement plutôt qu'un petit truc de rien du tout dans une pièce française où on me prendra simplement parce que j'ai une peau plus colorée, que ça fait joli dans le décor. Ça, je refuse de le faire. Je refuse de le faire au théâtre et je refuse de le faire au cinéma. Je ne dirai pas le nom du réalisateur, mais qui m'a proposé cette année-ci de jouer une femme de ménage. Moi, je veux bien jouer une femme de ménage à partir du moment où le rôle est superbe. J'ai vu une pièce avec, c'était Annie Cordy qui jouait Guy Tréjean, qui était une pièce magnifique à deux personnages, où elle était une femme de ménage. Je veux bien tout de suite jouer ce rôle-là, parce qu'il est extraordinaire. Mais à partir du moment où j'ouvre la porte, où je dis « Madame est servie » et deux autres phrases, je refuse de jouer ça, parce que c'est absolument pas valorisant pour moi. Et ça prouve que la mentalité profonde des gens n'a pas changé. Je veux dire, dans 1930, on faisait jouer ça aux acteurs noirs et on propose encore ce genre de rôle actuellement. Non, je ne veux pas. Je refuse.
En ce qui vous concerne, au fond, il faut vraiment être très au courant pour se rendre compte, oui, que vous n'êtes pas, disons, une Française oui, à la peau blanche comme les autres. Oui. Parce que vous pourriez être bronzée, au fond.
Oui. Pendant des années, j'ai dit que j'avais pas souffert de racisme, j'avais pas. Mais je dois dire que maintenant, je considère que c'est une forme de racisme très très subtile. Il y a plusieurs types d'acteurs noirs à Paris. Il y a des acteurs noirs, et puis il y a des acteurs noirs de culture occidentale, il y a des acteurs noirs de culture africaine, il y a des acteurs noirs qui ont la double culture. Moi, je fais partie des acteurs métis de culture occidentale. Donc, j'aimerais pouvoir avoir un libre accès à la culture, à ma culture. Parce que si j'ai voulu faire ce métier, c'est parce que la première pièce que j'ai vue, j'avais 5 ans, j'ai vu Roméo et Juliette en anglais. Et je trouvais ça fabuleux. Oui, c'est ça, c'est pouvoir jouer ce que je peux jouer. Ce que je sais que je peux jouer.
Oh, lumière amicale, aux fraîches sources de la lumière. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sous l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience.
Jean-Michel Martial, cet éloge de la négritude que vous venez de nous lire, qui, sous la plume d'Aimé Césaire, est très poétique, est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous dans le cinéma? Vous vous occupez un petit peu des acteurs noirs au cinéma. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est pris en compte, cet éloge?
Pas pour tout le monde. Il est pris en compte certainement par les comédiens noirs, par certains metteurs en scène et comédiens qui ne sont pas noirs, mais on ne peut pas dire qu'il soit pris en compte par tout le monde.
Alors vous êtes guadeloupéen, comédien de métier, et à l'origine donc d'une association dont l'un des buts est de défendre l'image de l'acteur, du comédien noir.
Oui, de défendre l'image de l'homme noir dans l'espace médiatique français, plus particulièrement au niveau du cinéma, du théâtre et de la publicité.
Comment ça vous est venu l'idée de construire une association comme ça?
Tout simplement un ras-le-bol. Parce que de temps en temps, et même à une époque très souvent, quand je regardais des affiches, au départ publicitaires, je voyais que l'image que l'on avait de nous n'était pas notre avantage. Je dis ça pour n'être pas agressif, parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment irrité.
Par exemple
À une époque, il y a une publicité d'un chocolat qui disait « brut de noir », des choses comme ça, quoi. Pourtant, les publicités répondent toujours et les films répondent toujours à de hauts critères de technique, de talent, d'art, etc. Mais en définitive, pour nous, noirs qui voyons ces films, on a toujours un petit grincement de dents ou alors quelque chose qu'on ravale et on a toujours l'impression qu'on s'est fait flouer encore une fois. Alors j'avais ce sentiment profond et d'autres amis avaient également ce sentiment. Un jour on s'est retrouvés autour d'une table et on a dit « bon ça suffit, si on ne manifeste pas notre désaccord, il n'y a aucune raison que ça change ». Alors dans cette intention on a créé le cercle Ménès. Pourquoi le cercle Ménès? Alors Ménès d'abord c'est un pharaon de l'ancien empire égyptien qui a utilisé les arts, qui a utilisé l'écriture longtemps avant que le monde blanc ne s'en octroie la paternité. Alors c'est simplement pour dire aux hommes noirs que eux aussi sont à l'origine de belles choses, et que même si on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire, et qu'il faut qu'ils soient fiers de ça aussi.
Alors revenons au cinéma et à la télévision. Alors quels sont les rôles qui vous sont offerts, et éventuellement quels sont les rôles qu'on vous refuse?
Il y a des metteurs en scène qui nous proposent des rôles intéressants. Je parle en l'occurrence Pierre Jolivet, John Berry dernièrement, Franck Landron, qui ont proposé des travaux intéressants et respectueux. Mais il y a d'autres gens qui reprennent toujours les mêmes archétypes et les mêmes caricatures. Parce que quand on dit homme noir, automatiquement arrive dans l'esprit des gens la joie, le sauvage, la force, le sourire bienveillant ou le sourire hargneux, enfin des archétypes qu'on a du mal à dépasser.
Raphaël Bassan disait tout à l'heure, à propos du cinéma américain, que le noir était quand même massivement présent dans le cinéma américain et quasiment absent dans le cinéma français. Alors vous ne confirmez pas?
Ah non, je confirme totalement. On n'a qu'à faire une étude quantitative et puis on va s'en rendre compte. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a une loi qui oblige les metteurs en scène de représenter les comédiens noirs selon un certain quota, ce quota étant le reflet de la réalité au niveau de la société américaine.
Ça vous paraît bon, ça?
Ça défend au moins la réalité, parce que il faut dire une chose, les producteurs sont blancs, les metteurs en scène sont blancs, les personnes qui écrivent les films sont blancs, alors il est logique que ce qu'ils écrivent soit le reflet de ce qui est leur réalité. Mais leur réalité, c'est quand même le reflet d'une idéologie dominante ou dominatrice.
Mais n'est pas l'impression qu'il y a des changements et qu'il y aurait de plus en plus d'acteurs noirs ou antillais qui entreraient effectivement dans la distribution de films français?
Si, heureusement. Mais je crois également que les gens qui arrivent au pouvoir à l'heure actuelle, à savoir les gens qui ont un peu plus de 30 ans ou qui sont un peu en avance, quoi, ou les gens qui ont les responsabilités à l'heure actuelle, ont dans leur passé côtoyé des gens, ils ont tous dans la mémoire un ami noir. Alors, ce qui n'était pas le cas dans les générations d'avant. Maintenant, quand on regarde quelqu'un qui a 32 ans, dans son école et au lycée, il a forcément connu ou côtoyé des noirs. Et il lui vient plus facilement à l'esprit d'écrire un rôle pour un noir, je crois.
Alors vous dites qu'il y a donc un certain progrès. Est-ce que votre association peut se targuer de succès et d'obtention véritablement de résultats auprès de metteurs en scène ou auprès de scénaristes ?
Non, pas du tout. Je dis qu'il y a un progrès. Je dis que ce progrès est très mince. Parce que quand je vois des films tels que, je le cite encore et toujours, Black Micmac, bon, c'est bien parce que on me faisait remarquer il n'y a pas longtemps que ça a donné du travail aux comédiens noirs, et c'est bien parce qu'on n'en a pas tant que ça, mais ça a quand même, ça renforce l'idée qu'on se fait d'une manière générale du noir dans les grandes cités françaises, et ça le confine à cette idée.
Alors Robert Linsol, qui est un comédien très talentueux dans sa génération, disait récemment dans un article qu'en fait Black Micmac c'était l'occasion finalement de présenter le nègre style Banania et Abon Banania avec les sourires et les dents blanches.
Il a parfaitement raison. Robert Linsol, pour moi, c'est un phare. C'est un monsieur plein de talent et plein d'humanité. Et je lui dis merci parce que si je suis là, c'est un peu grâce à lui. Parce qu'il a ouvert les portes pendant longtemps et avec beaucoup d'abnégation pour des gens comme moi. Il se trouve qu'à son époque, ils n'étaient pas nombreux à avoir la technique et le talent. Tout le monde a un petit talent et pas beaucoup acceptent de travailler pour avoir la technique. Lui a accepté de travailler pour avoir la technique. Moi, je dis autre chose. Je dis que nous existons à l'heure actuelle à tous les niveaux de la société, à tous les méandres de la société, qu'elle soit sociale, politique, économique ou culturelle. Dans les films, on ne nous propose pas toujours cette place-là. À savoir que nous sommes pourvoyeurs de drogue, nous sommes le méchant, nous sommes les gentils, ceux qui ont un rire tellement sympathique et un sourire tellement extraordinaire qu'on est obligé de le prendre en sympathie, mais on est totalement paterné, enfin, on nous propose rarement des rôles à responsabilité.
Pourtant, il y a des exceptions. Alors, je pense à Rouge, Moi, Noir. Je pense au film de Zane Palsy, qui a eu un prix à Venise, je vous le rappelle, rue Cazenègre, où il n'y avait que des Noirs.
C'est très bien. C'est pour moi, c'est bien. Elle a d'abord été honnête. Elle a parlé avec un œil antillais. Elle a vu avec une sensibilité antillaise toutes les choses qu'il y a aux Antilles. Elle en a parlé avec beaucoup de noblesse, je crois, et beaucoup de profondeur. Nous étions fiers, et nous sommes fiers du travail qu'elle a fait, mais c'est un certain talent qu'ils n'ont pas volé, mais on leur a pas donné. Le prix qu'ils ont payé pour accéder à la notoriété, c'est quelque chose qui n'est pas donné, c'est pas... Même cet exemple, puisque maintenant on les prend en exemple, avant qu'ils existent, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts, et on leur a pas dit « Existez, vous allez nous servir d'exemple ». Jean Rouch, c'est un travail, c'est une... Effectivement, il y a Jean Rouch sur combien de personnes ? En admettant que vous alliez chez le médecin, vous frappez, on vous ouvre, la personne qui vous ouvre est un médecin noir. Ça existe. Dans un film, on ne le voit jamais. Pourquoi ?
Dans ce que vous dites à propos de Rouch ou de Zane Palsy, j'entends une petite critique. À savoir, c'est bien, il parle des Noirs et tant mieux, il parle des Antillais de bonne façon, etc. Mais au fond, il ne parle pas des Antillais ou des Noirs associés, intégrés à la société française, avec les responsabilités d'un cadre français. Il se trouve que leur œuvre de création respectable ne parle que des Noirs dans un monde de Noirs, et non pas des Noirs intégrés au peuple français. Je vous ai bien entendu ?
C'est pas une critique à leur encontre. Il serait bien que nous fassions une recherche individuelle sur notre passé pour savoir exactement qui nous sommes, de manière à plus nous intégrer dans la réalité du présent. C'est un langage d'ouverture, mais pour pouvoir s'ouvrir, il faut se connaître. C'est pas du tout exclusif. Je parle français, j'ai été élevé aux Antilles, en Afrique. Mes parents ont bien fait attention en me disant « Essaie de parler français sans accent, que tu n'aies pas de problème, etc. » Je sais pas si c'était bien ou si c'était mal. Toujours est-il que je m'exprime du mieux que je peux. Là, je fais des efforts. Mais nous avons une langue commune, c'est une référence, alors ce patrimoine nous intéresse aussi.
Jean-Michel Martial, est-ce que vous êtes arrivé de refuser un rôle parce que vous aviez l'impression d'être un nègre Banania ?
Oui, plusieurs fois. Et regardez la tendance, comme elle est pernicieuse et comme il nous faut être vigilants. On m'a proposé il y a moins de 15 jours de travailler dans un film où je devais jouer un policier pour positiver l'image d'un noir qui était pourvoyeur de drogue. Et j'ai dit bon, d'accord, ok, j'ai regardé les lignes. J'avais une ligne, et il m'a dit oui, alors tu comprends, on a des problèmes de production. Mais on te voit, t'es dans un bureau, la porte est entrouverte, et tu dis une petite phrase, alors que le personnage qui était pourvoyeur de drogue avait une vingtaine de jours de tournage. Alors il y avait une disproportion entre la bonne conscience et puis la réalité. Vous savez, on m'a appelé pour jouer à la Comédie Française. J'ai joué, dommage qu'elle soit une putain, j'ai joué le comte Soranzo, il est pas noir. Vous voyez, on a joué Mademoiselle Julie, j'ai joué Monsieur Jean. Donc je veux pas, il est hors de question que je sois systématiquement le noir de service pour jouer le noir. Je veux jouer une fonction. Je vous parle, vous me parlez, quand vous me dites quelque chose qui m'agresse, je ressens une émotion. Cette émotion, elle est perçue par vous qui m'écoutez, peut-être à travers votre poste radio. Si je suis un bon comédien, sur scène, c'est cette émotion qui doit passer, et c'est ce que j'essaie de vous proposer. Alors, j'espère que les metteurs en scène oseront prendre le pari, parce qu'il y a une qualité particulière à notre émotion, et elle est peut-être intéressante.
Du silence, notre petit journal. Aujourd'hui, un livre, Blaise Joya, Le Nègre Potemkin. Alors Blaise Joya, ce livre, je vais d'abord lire un petit extrait de l'un de vos protagonistes, l'un de vos personnages qui dit « Ce que j'ai à dire concerne notre image à nous autres anciens. Je me suis bien renseigné sur cette question et je demande « Pourquoi sommes-nous dans vos archives et quasiment nulle part sur vos pellicules ?» Pas un film de guerre avec un soldat noir en tête d'affiche. Le cinéma tricolore, ignorait-il la couleur ?
Ce que je voulais surtout faire remarquer, c'est que en France, à peu près depuis la fin de la guerre, sur 10 films, il y en a peut-être 6 ou 7 qui sont sur la résistance. On ne voit pas dans ce film, justement, mes héros, dont il est question dans ce livre, ce sont des anciens combattants, et on ne les voit pas.
Alors justement, dans votre livre, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si le soldat inconnu était un noir.
Ouais.
En posant cette question, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
Il était intéressant pour moi, parce que je cherchais à démontrer que l'existence historique des anciens combattants étant parfaitement prouvée, et que l'absence au niveau de la représentation officielle, au niveau iconographique en général, me permettait de dire, est-ce que peut-être l'extraterrestre qu'on cherche, est-ce que c'est pas l'ancien combattant africain?
Alors, est-ce que c'est pas un micmac que vous voulez faire avec votre livre? Parce que, donc, il raconte l'histoire d'un natif du Burkina, ouais. Ismaël Sarakolé, qui est un type qui a fait le Baddaf, soldat de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est invité à participer avec 15 camarades au défilé du 14 juillet.
C'est ça.
Dans l'avion, ils vont faire leur prière islamique, ça va choquer tout le monde. Ouais. D'autre part, il y a 3 étudiants de Sciences Po, dont 2 noirs, qui ont choisi pour sujet de thèse, alors justement, le soldat inconnu. Et on a l'impression que tous vos personnages se centrent autour des problèmes de l'identité du noir, qui n'est jamais considéré à égalité avec le blanc, en tout cas au niveau des représentations.
Voilà, c'est l'image du noir dans la mémoire française. J'ai pas été chercher loin, parce que quand même la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas loin. C'est quand même affreusement inquiétant de se rendre compte qu'à peine au bout de 40 ans, que des gens qui ont participé effectivement à l'histoire, j'allais dire, qui est centrale dans la France contemporaine, soit en quelque sorte effacé de la bombe de famille. Donc effectivement, c'est ça le sujet. C'est peut-être pas non pas leur identité, mais leur image, leur présence au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire des gens. Parce que ce que je dis sur l'image est hélas valable aussi pour le programme d'éducation scolaire. Alors là, vous voyez que ça va très loin. Ça va. Il n'y a pas un seul pays en France, à part peut-être un spécialiste chartreux qui soit intéressé à cette question. Ou si vous cherchez dans les manuels du primaire ou du secondaire, il y a peut-être une évocation. Il n'existe pas, ni dans les livres d'histoire, ni au cinéma. Dans les archives, chez Monsieur de Tonquin, oui, ils existent. Mais...
Alors justement, on s'est intéressé au problème du noir dans la société française, la manière dont il a été traité. Il y a eu ce livre, Le Code Noir, qui a bien parlé des conditions dans lesquelles le noir était esclavagisé par les Français depuis des siècles. Mais en fait, c'est peut-être la première fois qu'on s'intéresse à la représentation du noir. Et vous avez l'air de dire que pas grand-chose a changé de ce point de vue, et que le noir, du point de vue de la représentation en général, pas seulement au cinéma, mais au fond dans tout ce qui est imaginaire, dans tout ce qui est œuvre d'art, est toujours au fond cantonné dans des rôles extrêmement délétères.
C'est des rôles soit délétères ou des rôles de nègre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu au niveau de ce qu'il crée ou de ce qu'il pense. C'est pour ça que délétère, c'est un mot un peu fort, disons que c'est, j'ai pas voulu aller jusque là. Je voulais tout simplement montrer que des gens qui existent dont l'existence n'est pas discutée, dont l'existence n'est pas niée, curieusement, n'apparaissent pas lorsque une société célèbre sa propre mémoire. Alors, c'était pour se demander pourquoi. je sais toujours pas, mais je considère que ça a changé quand même depuis 2-3 ans, puisque peut-être à cause de la profusion, la montée des musiques africaines ici, des musiques caraïbes, il y a de plus en plus une demande culturelle vers d'autres formes d'activités créatrices qui ressortissent effectivement du livre ou du dessin ou du théâtre, ce qui fait que mon assertion est un peu fausse pour maintenant. Elle est vraie en général, parce que fondamentalement, je pense que c'est encore le cas.
Là, vous avez un personnage qui s'appelle Kiyi, qui est une femme très étrange et qui s'intéresse aux études africaines. Ouais. Elle s'intéresse à Sonny Laboutansi, à Sem Ben Ousmane. Elle s'occupe du culte Achang, du vaudou africain, etc. Est-ce que ce personnage, pour vous, c'est pas quelqu'un que vous dévalorisez? C'est-à-dire, est-ce que vous ne proposez pas comme programme aux Noirs de s'intégrer totalement et de ne pas se centrer forcément sur la culture africaine?
Il y a un écueil qui signifie éviter de se marginaliser, parce que les Africains dont je parle, si je les plains et s'ils acceptent que je les plaigne, il ne faudrait pas que ce soit ces mêmes gens-là qui, de notre côté, lorsqu'ils ont la possibilité de sortir, j'allais dire, du trou noir, le refusent pour des raisons identitaires, on ne sait pas lesquelles, parce que, de toute façon, à un niveau global, à un niveau méta-historique, nous autres, on a été, j'allais dire, francisés, comme les Français ont été romanisés. Il n'y a pas de mal à ça, je l'écris quelque part, c'est inévitable.
Merci, donc c'était Blaise Joya, l'auteur du Nègre Potemkin, aux éditions Lieux communs. Et puis, ce soir, la nuit de la nouvelle, au profit d'Amnesty International, Le Chant des mots et Mariano Ricoste présentent toute une série de poèmes d'Amérique latine avec la participation de très nombreux comédiens au Café de la Danse, 5 passage Louis-Philippe, Paris 11e.
Voix du silence, une émission d'Antoine Spire.
Avec la collaboration de Jeannette Paterkowski, réalisation Anne Kobilac, mixage Yann Parentoen et Jean-Michel Coqui, texte dit par Jean-Michel Martial, Christiane Sirten. La semaine prochaine, quand les créateurs craignent pour leur liberté.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 mai 1988.